de Guy de Maupassant, Misère humaine. Jean d'Espard s'animait. « Mais fichez-moi la paix avec votre bonheur de taupe, votre bonheur d'imbécile que satisfait un fagot qui flambe, un verre de vieux vin ou le frôlement d'une femelle. Je vous dis, moi, que la misère humaine me ravage, que je la vois partout avec des yeux aigus, que je la trouve, vous n'apercevez rien, vous qui marchez dans la rue avec la pensée de la fête de ce soir et de la fête de demain. Tenez, l'autre jour, avenue de l'Opéra, au milieu du public rampant, remuant et joyeux que le soleil de mai grisait, j'ai vu passer soudain un être innommable, une vieille courbée en deux, vêtue de loques qui furent des robes, coiffée d'un chapeau de paille noire, tout dépouillé de ses ornements anciens, rubans et fleurs disparus depuis des temps indéfinis. Et elle allait, traînant ses pieds si péniblement, que je ressentais au cœur, autant qu'elle-même, plus qu'elle-même, la douleur de tous ses pas. Deux cannes la soutenaient. Elle passait, sans voir personne, indifférente à tout, au bruit, aux gens, aux voitures, au soleil. Où allait-elle? Vers quel taudis? Elle portait dans un papier qui pendait au bout d'une ficelle quelque chose. Quoi, du pain? Oui, sans doute. Personne, aucun voisin n'ayant pu ou voulu faire pour elle cette course, elle avait entrepris, elle, ce voyage horrible de sa mansarde au boulanger. 2 heures de route au moins pour aller et venir. Et quelle route douloureuse! Quel chemin de la croix plus effroyable que celui du Christ! Je levais les yeux vers les toits des maisons immenses. Elle allait là-haut. Quand y serait-elle? Combien de repos haletant sur les marches, dans le petit escalier noir et tortueux? Tout le monde se retournait pour la regarder. On murmurait « pauvre femme », puis on passait. Sa jupe, son haillon de jupe, traînait sur le trottoir, à peine attaché sur son débris de corps. Et il y avait une pensée là-dedans. Une pensée, oh non, mais une souffrance épouvantable, incessante, harcelante. Oh, la misère des vieux sans pain, des vieux sans espoir, sans enfants, sans argent, sans autre chose que la mort devant eux. Y pensez-vous? Y pensez-vous, vieux affamés des mansardes? Pensez-vous aux larmes de ces yeux ternes qui furent brillants, émus et joyeux jadis? Il s'était tu quelques secondes, puis il reprit. Toute ma joie de vivre, pour me servir du mot d'un des plus puissants et des plus profonds romanciers de notre pays, Émile Zola, qui a vu, compris et raconté comme personne la misère des infirmes, toute ma joie de vivre a disparu, s'est envolée soudain, il y a 3 ans à l'automne, un jour de chasse en Normandie. Il pleuvait, j'allais seul par la plaine, par les grands bois labourés de boue, grâce qui fondait glissait sous mon pied. De temps en temps, une perdrix surprise, blottie contre une motte de terre, s'envolait lourdement sous l'averse. Mon coup de fusil, éteint par la nappe d'eau qui tombait du ciel, claquait à peine comme un coup de fouet et la bête grise s'abattait avec du sang sur ses plumes. Je me sentais triste à pleurer comme les nuages qui pleuraient sur le monde et sur moi, trempé de tristesse jusqu'au cœur, accablé de lassitude à ne plus lever mes jambes engluées d'argile. Et j'allais rentrer quand j'aperçus au milieu des champs le cabriolet du médecin qui suivait un chemin de traverse. Et elle passait, la voiture noire et basse couverte de sa capote ronde et traînée par un cheval brun, comme un présage de mort errant dans la campagne par ce jour sinistre. Tout à coup, elle s'arrêta, la tête du médecin apparut et il cria « Hé, monsieur d'Espard !» J'allais vers lui, il me dit « Avez-vous peur des maladies ?»« Oh non !»« Voulez-vous m'aider à soigner une diphtérie? Je suis seul. Il faudra la tenir pendant que j'enlèverai les fausses membranes de sa gorge. Bon, je viens avec vous, lui dis-je. Et je montai dans sa voiture. Il me raconta ceci. L'angine, l'affreuse angine qui étrangle les misérables hommes, avait pénétré dans la ferme des Martinets, de pauvres gens. Le père et le fils étaient morts au commencement de la semaine. La mère et la fille s'en allaient aussi maintenant. Une voisine qui les soignait, se sentant soudain indisposée, avait pris la fuite la veille, même laissant ouverte la porte et les deux malades abandonnés sur leur grabat de paille, sans rien à boire, seuls, râlant, suffoquant, agonisant, seuls depuis 24 heures. Le médecin venait de nettoyer la gorge de la mère et l'avait fait boire, mais l'enfant, affolé par la douleur et par l'angoisse des suffocations, avait enfoncé et caché sa tête dans sa paillasse sans consentir à se laisser toucher. Le médecin, accoutumé à ses misères, répétait d'une voix triste et résignée. « Je ne veux pourtant point passer ma journée chez mes malades. Christi, oh, celle-là serre le cœur. Quand on pense qu'elles sont restées 24 heures sans boire, le vent chassait la pluie jusqu'à leur couche. Toutes les poules s'étaient mises à l'abri dans la cheminée. » Nous arrivions à la ferme. Il attacha son cheval à la branche d'un pommier devant la porte et nous entrâmes. Une odeur forte de maladie et d'humidité, de fièvre et de moisissure, d'hôpital et de cave nous saisit à la gorge. Il faisait froid, un froid de marécage dans cette maison sans feu, sans vie, grise et sinistre. L'horloge était arrêtée. La pluie tombait par la grande cheminée dont les poules avaient éparpillé la cendre, et on entendait dans un coin sombre un bruit de soufflet rauque et rapide. C'était l'enfant qui respirait. La mère, étendue dans une sorte de grande caisse de bois, le lit des paysans, et caché par de vieilles couvertures et de vieilles hardes, semblait tranquille. Elle tourna un peu la tête vers nous. Le médecin lui demanda « Avez-vous une chandelle ?» Elle répondit d'une voix basse, accablée « Dans le buffet !» Il prit la lumière et m'emmena au fond de l'appartement vers la couchette de la petite fille. Elle haletait, les joues creuses, les yeux luisants, les cheveux mêlés, effrayante. Dans son cou maigre et tendu, des creux profonds se formaient à chaque respiration. Allongée sur le dos, elle serrait de ses deux mains les loques qui la couvraient, et dès qu'elle nous vit, elle se tourna sur la face pour se cacher dans la paillasse. Je la pris par les épaules, et le docteur, la forçant à montrer sa gorge, en arracha une grande peau blanchâtre, qui me parut sèche comme du cuir. Elle respira mieux tout de suite et but un peu. La mère, soulevée sur un coude, nous regardait. Elle balbutia « C'est-y fait ?»« Oui, c'est fait. »« Alors, j'ont-ils resté toute seule ?» Une peur affreuse faisait frémir sa voix. Peur de cet isolement, de cet abandon, des ténèbres et de la mort qu'elle sentait si proche. Je répondis, « Non, ma brave femme, non, j'attendrai que M. Pavillot vous ait envoyé la garde. » Et me tournant vers le docteur, « Envoyez-lui la mère Bauduit, je la paierai. »« Bon, parfait, je vous l'envoie tout de suite. » Il me serra la main, sortit, et j'entendis son cabriolet qui s'en allait sur la route humide. Je restais seul avec les deux mourantes. Mon chien, Paf, s'était couché devant la cheminée noire. Il me fit songer qu'un peu de feu serait utile à nous tous. Je ressortis donc pour chercher du bois et de la paille, et bientôt une grande flamme éclaira jusqu'au fond de la pièce le lit de la petite qui recommençait à haleter. Et je m'assis, tendant mes jambes vers le foyer. La pluie battait les vitres. Le vent secouait le toit. J'entendais la laine courte, dure, sifflante des deux femmes et le souffle de mon chien qui soupirait de plaisir rouler devant l'âtre clair. La vie, qu'était-ce que cela? Ces deux misérables qui avaient toujours dormi sur la paille, manger du pain noir, travailler comme des bêtes, souffert toutes les misères de la terre, aller mourir. Qu'avait-elle fait? Le père était mort, le fils était mort. Ces gueux pourtant passaient pour de bonnes gens, qu'on aimait, qu'on estimait, de simples et honnêtes gens. Je regardais fumer mes bottes et dormir mon chien. Et en moi entrait une joie inconnue, profonde et honteuse, en comparant mon sort à celui de ces forçats. La petite fille se remit à râler, mais tout à coup ce souffle rauque me devint intolérable. Il me déchirait comme une lime dont chaque coup mordait mon cœur. J'allai vers elle. « Veux-tu boire ?» lui dis-je. Elle remua la tête pour dire oui. Et je lui versai dans la bouche un peu d'eau qui ne passa point. La mère, restée plus calme, s'était retournée pour regarder son enfant. Et voilà que soudain, une peur me frôla, mais une peur sinistre qui me glissa sur la peau comme le contact d'un monstre invisible. Où étais-je? Je ne le savais plus. Est-ce que je rêvais? Quel cauchemar m'avait saisi? Était-ce vrai que des choses pareilles arrivaient, qu'on mourait ainsi? Et je regardais dans les coins sombres de la chaumière, comme si je m'étais attendu à voir, blotti dans un angle obscur, une forme hideuse, innommable, effrayante, celle qui guette la vie des hommes et les tue, les ronge, les écrase, les étrangle, qui aime le sang rouge, les yeux allumés par la fièvre, les rides et les flétrissures, les cheveux blancs et les décompositions. Le feu s'éteignait. J'y rejetais du bois et je m'y chauffais le dos, tant j'avais froid dans les reins. Au moins, j'espérais mourir dans une bonne chambre, moi, avec des médecins autour de mon lit et des remèdes sur les tables. Et ces femmes étaient restées seules 24 heures dans cette cabane sans feu, n'ayant à boire que de l'eau et râlant sur de la paille. J'entendis soudain le trot d'un cheval et le roulement d'une voiture, et la garde entra, tranquille, contente d'avoir trouvé de la besogne, sans étonnement devant cette misère. Je lui laissai quelque argent et je me sauvai avec mon chien. Je me sauvai comme un malfaiteur, courant sous la pluie, croyant entendre toujours les sifflements des deux gorges, courant vers ma maison chaude, où m'attendaient mes domestiques, en préparant un bon dîner. 8 juin 1886.